Eh bien, ça fait un peu rêver.
Belle expo.
Art Expo News, Julie Chaise-Martin.
Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications là-dessus.
Ouais, très bien.
Exposition à l'affiche, rendez-vous culturel. Lars Fredriksson. On n'écoute pas le son qu'avec les oreilles. C'était un peu le MacGyver de l'art, expérimentateur enthousiaste, amoureux des connexions entre les arts et des interférences insolites, il n'a cessé de se faire rencontrer des lignes plastiques et des ondes pour créer un univers singulier qui fut remarqué un temps avant d'être totalement oublié. Pourtant, Lars Fredriksson, Suédois d'origine qui vient s'installer en 1960 dans le sud de la France, est un pionnier à bien des égards. Il est en effet un des premiers à s'intéresser à la matière sonore. En tant qu'artiste, il va essayer de la capter, l'enfermer, la faire résonner afin d'en réaliser une représentation dans l'espace et le temps. Il parle lui-même d'espace plastique révélé par le son, plutôt nouveau pour son époque. Avec lui, on n'est pas loin de s'envoler dans une quatrième dimension. Ce qui frappe dans son œuvre, ce sont les lignes, qui représentent des flux. Ce n'est donc pas un hasard s'il s'intéresse au cinétisme et à la radio, qu'il pratique en amateur dans un studio son installé chez lui et qu'il va bientôt transposer dans le domaine artistique en créant le premier studio son d'une école d'art en France, celle de Nice, la Villa Arson. Hélène Guenin, directrice du musée d'art moderne et contemporain de Nice, le MAMAC, est aussi la commissaire d'une exposition qui a fermé prématurément à cause de la crise sanitaire actuelle, mais qui a présenté depuis mi-novembre cet artiste singulier qui méritait d'être remis en lumière, un pionnier qu'elle nous aide au mieux à connaître, puisque j'ai arpenté les salles de l'exposition avec elle en février et c'était un vrai bonheur.
Pionnier dans les pratiques de l'art sonore, qu'il a amorcé à la fin des années 60, mais aussi quelqu'un qui a toute sa vie cherché à rendre tangibles les phénomènes qui nous entourent, qui sont invisibles, mais comme l'électromagnétisme, les particules. Il était fasciné par cette énergie en mouvement qui nous entoure, et tout au long de sa vie, que ce soit à travers des aquarelles ou des choses beaucoup plus expérimentales, il a cherché à restituer cet univers.
Un petit mot sur cette photo. On le voit, il est où, là, sur cette photographie, où on le voit au milieu d'éléments un peu de sculpture.
Alors là, on est au milieu des années 60, on est à Antibes, il est déjà installé en France. C'est dans son atelier, il est environné d'œuvres de type cinétique qu'il fait à ce moment de sa vie. C'est un moment fort pour lui parce que pendant 7 ans, il a été officier de communication dans la marine marchande suédoise, donc une toute autre carrière, où pendant des années, il a communiqué par morse, observé des informations qui lui parvenaient par flux et par signaux. Et il avait toujours été passionné par l'art. Il avait pris des cours de peinture à la Grande Chaumière à Paris. Et donc, c'est le moment, sur cette photo, où il vient s'installer en France, commence à véritablement vivre sa vie d'artiste.
Oui, donc l'intérêt pour les signaux son et le morse est quand même directement lié à son activité artistique postérieure.
Exactement, en fait, il y a cette connexion très forte entre cette première vie professionnelle, mais qui lui a donné un rapport au monde particulier. On commence vraiment à démocratiser tous les champs de réflexion autour de la physique quantique, mais aussi quelque chose qui est beaucoup plus lié à une philosophie orientale, au bouddhisme zen, et à une façon de percevoir le monde justement comme quelque chose d'impermanent et toujours en mouvement.
Dans l'exposition, Hélène Guenin nous guide et nous arrête devant plusieurs œuvres marquantes des années 60 qui font le lien entre l'attirance pour les phénomènes scientifiques et l'attachement à une vision poétique, humaine, corporelle, faisant de Lars Fredriksson l'artiste qu'il est devenu. Derrière l'enquête scientifique, c'est toujours le rêve qui l'a guidé, une manière de voir le monde et de le représenter, d'un microcosme vers un macrocosme.
Alors, dans le courant des années 60, Lars Fredriksson va développer des pièces entre guillemets cinétique, comme celle-ci, qui est animée d'un mouvement perpétuel. On voit un jeu de lumière et de forme qui balade sur un écran. On a presque l'impression d'avoir une sorte d'espace intersidéral qui se déploie devant nous. Et ces pièces ont été repérées par Denise René, qui était la grande galeriste des cinétiques, qui a invité Lars. Mais très rapidement, la collaboration a cessé parce que Lars disait « Je ne suis pas cinétique, je suis trop humain pour être cinétique ». Et en réalité, ce qui l'intéressait, ce n'était pas seulement la question du mouvement, mais de suggérer la circulation des énergies et presque un espace autre.
Alors, ce qui est intéressant, juste pour un petit peu décrire rapidement l'œuvre, c'est qu'on est comme devant un tableau qui est lumineux, avec des formes lumineuses qui sont en mouvement. Donc on est devant un tableau vivant, on n'est pas du tout devant une œuvre statique.
Effectivement, et à cette époque, il développe toute une série d'œuvres de ce type qui représentent ce mouvement permanent. Et en fait, on est face à un système aléatoire. Ce sont des petits mobiles qui sont à l'intérieur, qui sont balayés par un jeu de lumière. Mais ce mécanisme n'est pas du tout visible. Mais simplement, comme chaque élément est animé de son propre mouvement, l'image que l'on voit apparaître n'est jamais la même.
Magnétisme, fréquence, utilisation de moniteurs pour générer des fréquences et créer des ondes lumineuses. Lars Fredriksson est comme Nam June Paik, son contemporain, un pionnier de la relation entre l'art et la technologie. Mais il est aussi multiple dans ses techniques de support. S'essayant à la gravure, la peinture et la sculpture également, il reçoit très vite le soutien précieux d'Aimé Mag et de sa fondation.
Donc, en 1969, Lars Fredriksson va faire une rencontre assez décisive avec Aimé Magt à la Fondation Magt à Saint-Paul-de-Vence, lors d'une des soirées de la Fondation Magt où Lars va participer à un concert et au cours de ce concert, il interagit avec le battement de cœur de Françoise Hardy. Et donc la rencontre se fait à ce moment-là. Aimé Magt se passionne pour son travail et va lui donner pendant 2 ans les clés de l'atelier de gravure de la Fondation et va pourvoir pendant 2 années également à tous ses besoins. Et c'est à ce moment-là que Lars va développer ses gravures sur Metalux, donc c'est un papier métallique. Et on voit ici vraiment le vocabulaire de Lars, c'est-à-dire des jeux de lignes, des jeux de points, des vides, des silences. Donc quelque chose de très épuré, chaque fois unique. Parce que chaque fois que Lars Fredriksson investit une technique, c'est pour mieux la subvertir. La gravure, c'est pas pour faire des multiples éditions. Il va à chaque fois se saisir du potentiel de la gravure pour ses incises, les embossages, etc. Mais chacune de ses gravures sera véritablement unique. Et ça fait le lien avec une série qui développe à la même période de grands inox monumentaux qui va pouvoir développer aussi grâce au soutien de la Fondation Magt, qui sont des sortes de tableaux-reliefs réalisés à même des plaques d'inox avec des jeux d'embossage, des griffures, des poinçons qui donnent comme ça une sorte de miroir un peu spectaculaire. Et on peut s'amuser presque comme dans un palais des glaces à passer devant les différents inox. Parfois on est complètement exclu du reflet, parfois on est déformé ou inclus. En tout cas, ça interagit avec nous et ça interagit même du point de vue du son, puisque face à certaines œuvres, le son résonne d'une manière différente.
Clou de l'exposition, le studio son de l'artiste qui occupe une pièce entière et qui m'a évidemment particulièrement intéressée, en particulier son studio de radio amateur.
Alors là, on est dans une reconstitution du studio son de Lars Fredriksson. Donc on est face à un arsenal de machines à bandes, d'oscilloscopes, de générateurs de fréquences, d'enceintes, qui sont des appareils qu'il a achetés, parfois construits de ses mains, ou dans tous les cas modifiés par son intervention, parce que c'est quelqu'un qui avait cette formation technique. Et dans ses archives, il y a énormément de dessins de circuits. Donc on voit exactement comment il va transformer les appareils pour obtenir exactement les sons ou les techniques qu'il souhaite. Donc il avait fait ça à Antibes, puis à Vevouille dans le Vaucluse où il avait une maison. Et il avait fait l'exacte copie à la Villa Arson pour les étudiants. Et donc au fil des années, il s'est construit comme ça un arsenal. Et il avait des grandes antennes, on voit une image ici au-dessus de chez lui, qui lui permettaient en fait de capter les radiofréquences. Donc il était aussi radioamateur, et de capter un certain nombre de phénomènes physiques, toujours l'électromagnétisme ou les données. Quand les fax, la technologie du fax a commencé à apparaître, il s'est doté aussi des moyens technologiques pour pouvoir capter les signaux et les informations qui véhiculaient, qui étaient véhiculés pour les fax. Donc on a aussi dans ce studio son un fax qui était un fax de l'armée qu'il a réussi à se procurer dans un surplus militaire, et puis des fax qui sont les premiers qui étaient démocratisés pour un grand public et qu'il a utilisé très rapidement à partir de 1974 comme des machines à dessiner.
Donc là, il faut imaginer que tous ces appareils, donc ça fait un peu cabinet de curiosité dédié au son, étaient dans une pièce chez lui.
Oui.
Et donc, il y passait beaucoup de temps. Est-ce que c'était d'abord un passe-temps ou est-ce qu'il y avait vraiment cette volonté d'en tirer un travail artistique ?
En fait, dès 1969, il commence à travailler le son en tant que pratique artistique. Et il va se créer tout cet arsenal pour les besoins de cette production sonore. Et aujourd'hui, il y a près de 400 bandes magnétiques qui contiennent des enregistrements de ce travail sonore de Lars Fredriksson. Il y en a à peine 10% qui sont numérisés aujourd'hui, donc ça reste un vrai champ de recherche sur cet artiste.
Oui, donc tout un travail à découvrir aujourd'hui.
En tout cas, ce qui le passionnait, c'était la pratique du radio amateur. Donc il avait une carte de radio amateur, il avait accès à certains appareils grâce à ça, et il s'est souvent amusé à pirater en fait les conversations des radios amateurs. Il y a aussi des captations qu'il a faites. Donc parmi toutes ces bandes, il y a des choses qui relèvent vraiment de travaux sonores et des choses qui relèvent d'enregistrements qu'il avait collectés presque comme des outils pour la suite certainement.
Donc il s'amusait aussi, radio pirate.
Radio pirate, complètement, et pirate tout court, je pense.
L'idée, c'est qu'il faut s'asseoir, écouter.
Il faut s'asseoir, écouter, faire même l'expérience physique de plusieurs pièces sonores de Lars Fredriksson qui ont été numérisées et sauvegardées. Et sur certaines pièces, on est vraiment pris physiquement. C'est une chose que Lars disait souvent, en fait, on n'écoute pas le son qu'avec les oreilles. Et c'est vrai qu'il va jouer beaucoup avec les très basses fréquences et les hautes fréquences, des choses que normalement on n'entend pas, et qu'il va rendre sensible. Et donc on entend, et presque on voit, puisqu'il y a presque quelque chose de paysager parfois, ces sons qui s'étirent, qui rebondissent dans l'espace, qui nous environnent. Et parfois on a des sortes de sinusoïdes qui montent et qui accélèrent notre rythme cardiaque, nous prennent physiquement. Et c'est vraiment quelque chose qui joue avec notre physique, avec notre mental. On est vraiment pris dans le son de Lars. C'est quelque chose qui était très important pour lui. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'après la numérisation de ses copies, on a commencé à écouter les pièces sonores. Et alors que Lars avait laissé très peu de protocoles sur comment on devait écouter ses pièces, c'est presque les pièces qui ont dicté comment elles devaient être présentées. Elle se spatialise toute seule.
Le son du geste pictural.
Exactement. Donc il a placé donc un enregistreur juste derrière la toile. Et ce qui devrait être le très délicat mouvement d'un pinceau, amplifié, donne cette espèce de bruit très fort, comme si on raclait quelque chose, comme si on était en train de poncer un élément. Et Lars a toujours dit que finalement, ce qu'il avait voulu dans le fond, dans sa vie, c'était réunir toutes ses pratiques et réussir à faire une peinture sans matière. Et en fait, on a souhaité terminer par cette pièce parce que c'est la synthèse de tout le travail de Lars.
Lars Fredriksson, un fascinant pionnier, était présenté au MAMAC de Nice cet hiver jusqu'à la mi-mars. Une exposition immersive, fabuleuse, qui remettait en lumière cet inventeur de génie, obsédé par le son et par les différentes énergies qui nous entourent et qui contribuent à l'équilibre de notre monde. Notre corps est aussi un espace, une matière sonore, dont tous les sens interagissent avec les œuvres hypnotiques de Lars Fredriksson.
Et bien, ça fait un peu rêver.
Belle expo.
Art Expo News, Julie Chaise-Martin.
Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications là-dessus.
Ouais, très bien.
Exposition à l'affiche, rendez-vous culturel.